La lutte contre l'exclusion sociale.
L'exclusion des femmes racisées dans le monde du travail est un problème récurrent et persistant dans de nombreux pays, notamment en France. Les femmes racisées sont souvent confrontées à des obstacles majeurs pour accéder à des opportunités de carrière et pour progresser professionnellement. Cette forme de discrimination raciale se manifeste sous différentes formes, telles que le recrutement et la promotion biaisés, le salaire inégal, les stéréotypes ainsi que les préjugés de la part des collègues, des employeurs et même des clients. Aujourd'hui, j'aimerais plaider contre ce phénomène d'exclusion sociale qui me tient très à cœur. En effet, ce n'est un secret pour personne, mais l'insertion des femmes dans le monde du travail est davantage alambiquée, pour cause de sexisme, d'autant plus si celles-ci appartiennent à un groupe ethnique perçu comme extra-européen. Ce sexisme, qui est en fait la cause de l'exclusion des femmes de la sphère professionnelle, leur signifie qu'elles ne sont pas à leur place. De ce fait, cela a des répercussions sur leur performance, le bien-être et leur confiance en elles-mêmes dans leur lieu de travail. En effet, selon révolutionpermanente.fr, 41% des femmes se disent avoir été victimes de discrimination au sein de leur travail, contre 28% des hommes. Cependant, pour les femmes perçues comme arabes, noires ou asiatiques, âgées de 18 à 34 ans, le taux de discrimination dans le monde du travail est de 69%, contre 37,4% pour les femmes blanches pour tout âge confondu. Ces injustices empêchent les femmes racisées de réaliser leur plein potentiel professionnel, de progresser dans leur carrière et d'atteindre des postes de leadership. Ainsi, ils empêchent l'épanouissement des femmes extra-européennes au sein de notre société, ce qui est scandaleux et inacceptable de nos jours, car en effet, une femme, de quelque ethnie qu'elle soit, ne devrait subir un jugement uniquement en fonction de la qualité de son travail et non pas pour ce qu'elle est. D'autant plus que ces micro-agressions que subissent ces femmes au quotidien dans leur lieu de travail ont un réel impact sur leur santé mentale. Selon startlesco.fr, une femme prénommée Julie qui a 29 ans et d'origine antillaise est diplômée d'un master international de management. Un jour, elle devra rencontrer celle qui sera sa future responsable de stage dans un grand groupe français de communication. Je cite, « C'était comme un rêve. J'étais super confiante parce que j'avais été repérée par mon travail. J'étais loin d'imaginer que j'allais passer 6 mois en terrain hostile », indique la jeune femme. Dès le premier jour, une première désillusion. Quand on me présente à l'équipe, une collègue, censée faciliter mon intégration, déclare que je vais être la caution exotique de l'équipe. Elle enfonce le clou en précisant que l'autre stagiaire exotique, prénommée Zao, qui vient de Nouvelle-Zélande, est blonde aux yeux bleus, donc ça ne se voit pas trop. Témoigne Julie qui se sent humiliée, mais qui reste motivée par cette nouvelle mission. Selon un blog, noiresfemmes.com, je cite, « De ce fait, comme si les années d'école n'avaient pas suffi, en entreprise aussi, on peut faire l'objet de micro-agressions. Beaucoup sont verbales, mais ça peut aussi être physique. » Comme l'exemple tant cité des personnes qui se permettent de toucher vos cheveux quand vous arborez un afro ou toute autre coiffure qui ne leur est pas familière. Ou bien vous a-t-on mandaté de former une nouvelle recrue de A à Z et vous avez appris par la suite que cette personne était mieux rémunérée que vous ? Moi, ça m'est déjà arrivé, et bien plus d'une fois, autant en France qu'au Québec, déclare la blogueuse de noiresfemmes.com. Au-delà des micro-agressions qui sont devenues banales pour beaucoup d'entre nous, il peut y avoir des comportements beaucoup plus blessants, comme lorsque vous parlez souvent avec un ou une cliente par téléphone et que le courant passe très bien entre vous, mais que lorsque vous ou le la rencontrez en personne, il ou elle est distant et n'ose à peine vous parler. Il y a aussi notamment dans le milieu hospitalier, comme ces patients qui refusent d'être traités par une personne de couleur. Selon bondiblog.fr, un jour, on m'a demandé de quelle origine j'étais. Quand j'ai dit « algérienne », j'ai eu comme réponse « tu as de la chance, ça ne se voit pas trop ». Je reçois des CV de grande qualité de gens issus de l'immigration avec l'expérience, en plus d'avoir mené des études dans de grandes écoles de commerce. En entretien, quand je leur demande pourquoi ils veulent travailler chez moi, souvent ils me répondent « vous êtes la seule à m'avoir répondu », alors que pour ma part, je les ai choisis pour leur expérience et leurs compétences. Dans notre société actuelle, il est tout à fait inadmissible que des femmes ou toute personne de quelque ethnie qui soit victime de ce genre d'injustice. Il est inadmissible de voir notre monde ainsi que notre société évoluer alors que de telles inégalités persistent continuellement au sein des entreprises. Il est en notre devoir de briser ces codes et de rendre ces sujets moins tabous afin de faire évoluer les choses et d'assurer l'épanouissement professionnel de toutes les femmes au sein de notre société. C'était Jessie Amblaguer pour le plaidoirie sur l'exclusion sociale.
Les papiers de monnaie.
La lutte contre l'exclusion sociale.
Chers camarades, aujourd'hui, je souhaite porter à votre attention une réalité troublante qui frappe notre société, l'exclusion sociale des toxicomanes. Nous avons tous croisé leur chemin, peut-être même sans nous en rendre compte, mais il est temps de briser le silence et de défendre leurs droits face à la stigmatisation sociale. L'exclusion sociale est une situation dévastatrice dans laquelle les toxicomanes se retrouvent piégés. Ils sont confrontés à des préjugés tenaces et à des discriminations insidieuses au quotidien. La société les relègue souvent au rang de parias, les regardant avec méfiance et mépris. Cette marginalisation les coupe de toute forme de soutien et les maintient dans un état d'isolement cruel. Pire encore, les toxicomanes sont confrontés à de nombreux obstacles dans leur quête de guérison et de réintégration dans la société, comme les ressources de désintoxication et l'accompagnement. Sans soutien adéquat, ces individus vulnérables sont condamnés à lutter seuls contre leur dépendance, une bataille ardue et décourageante. Permettez-moi de vous conter l'histoire de Julien, un homme dont la vie a été empreinte de lutte et de désespoir en raison de sa dépendance à la drogue. Julien était autrefois un brillant étudiant, plein d'ambition et d'espoir pour l'avenir. Mais peu à peu, il s'est retrouvé pris dans les filets de l'addiction, plongeant dans une spirale destructrice. Sa dépendance a tout emporté sur son passage, sa famille, ses amis, ses études, tout s'est effondré autour de lui. Il s'est retrouvé isolé, rejeté par la société et abandonné à son sort. Chaque jour était un combat pour lui pour obtenir sa dose et apaiser les démons qui le tourmentaient. Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous parler de ses difficultés. Je suis ici pour vous montrer que derrière chaque toxicomane se trouve un être humain vulnérable qui aspire à la rédemption et à une seconde chance dans la vie. En effet, une soirée, alors que Julien avait touché le fond en faisant une overdose, il a rencontré une âme bienveillante qui a vu au-delà de sa dépendance, quelqu'un qui croyait fermement à la valeur de chaque vie. Lors du réveil de Julien, cette personne a pris le temps de comprendre Julien et de le soutenir sans jugement. Suite à cette rencontre, Julien a trouvé un ami, de l'espoir et de la force pour se battre. Il a repris ses études puis a trouvé un travail. Ainsi, Julien est un exemple de rédemption. Mes chers camarades, nous ne pouvons pas ignorer cette réalité. Il est temps de briser le cercle vicieux de l'exclusion sociale de toxicomanes. Nous devons tendre la main et offrir une lueur d'espoir à ceux qui en ont désespérément besoin. En tant que jeunes engagés, nous avons le pouvoir de faire la différence. Nous pouvons commencer par éduquer les autres en sensibilisant nos pairs et en combattant les préjugés qui entourent la dépendance aux drogues. Nous devons promouvoir l'inclusion et la compassion. En conclusion, ensemble, nous pouvons briser les chaînes de la stigmatisation et construire un monde où personne n'est laissé pour compte. Engageons-nous aujourd'hui pour un avenir plus inclusif, équitable et bienveillant. Je vous remercie, c'était Adam Hakim pour la radio RVM.
RVM, à 14h, du lundi au vendredi, découvrez le travail des lycéens-lycéennes de Jean Monnet de Crépierre-Valois sur l'exclusion sociale. Ils et elles se sont investis toute l'année scolaire avec leur professeur d'enseignement moral et civique, Barbara Maurice.